En France, on est familier avec le conflit armé colombien qui a opposé pendant longtemps le gouvernement au FARC et à l'Ejército de Liberación Nacional et avec la présence des groupes paramilitaires. On est moins familier du conflit armé au Pérou qui a débuté en 1980 et qui s'est terminé en 2000 et qui a opposé quatre factions. L'État péruvien, le Sentier Lumineux ou Parti communiste péruvien Sentier Lumineux, une émanation du Parti communiste péruvien d'obédience maoïste qui s'était créé dans les années 1970 et qui avait profité de l'abandon de certaines régions rurales par l'État pour s'implanter. Le groupe révolutionnaire Tupac Amaru et les comités d'autodéfense paysanne. Ce conflit a fait 70 000 victimes en comptant les morts, les disparus. Parmi ces victimes, la majorité se situe dans la région de la ville d'Ayacucho dans les Andes péruviennes. Les trois quarts sont autochtones et les femmes ont payé un lourd tribut. En 1983, l'association Enfazep s'est créée pour rassembler les parents de victimes. Depuis la fin du conflit armé, elle travaille à faire émerger une mémoire différente de la mémoire officielle qui est véhiculée du conflit. Pour parler de cette mémoire à travers un projet qui a vu le jour en France, qui s'appelle Warmi Kuna et qui utilise le travail de l'Enfazep, nous recevons Tania Romero Barrios, doctorante à l'Université Paris 8. Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des Rêves Lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h. Tania Romero Barrios, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Tania.
Vous êtes donc doctorante à Paris 8 en études romanes. Votre thèse est faite en codirection avec l'INALCO et elle s'intitule Warmi Kunapa. Willa Kuinin, genre, violence et mémoire dans les récits du post-conflit armé au Pérou 2000-2022. Alors, avant de commencer, je vais présenter l'équipe. J'ai avec moi Dario.
Merci Pascal.
Qui va faire l'entretien à mes côtés. Et nous avons à la réalisation Michael, qui est de l'émission Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris. Donc merci à toi, Michael, d'être venu nous assister pour cette émission.
Merci beaucoup, Michael.
Et voilà, Semillas Latinas, c'est l'émission qui parle des luttes en Amérique latine. Tania, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut rajouter quant à votre présentation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit ou que j'ai mal dit?
Doctorante en études hispaniques et en études de genre. Voilà, peut-être la seule précision.
D'accord. Alors, pour commencer, effectivement, ce conflit armé péruvien, on ne le connaît pas trop en France. On en entend. Je pense que peu de gens connaissent son existence. Bon, le sujet de l'émission n'est pas de faire l'histoire de ce conflit armé, mais peut-être une question quand même, comment est-ce qu'il s'est terminé en 2000?
Oui, alors effectivement, le Pérou reste un pays qui est souvent... disons, on se retrouve dans, un peu hors case, en fait, dans l'histoire, parce que peut-être qu'en France, on est un peu plus familiarisé par rapport aux dictatures du Cône Sud ou par rapport à d'autres conflits armés. Mais il est important de revenir sur quelques spécificités. Donc, vous en avez cité quelques-unes du conflit armé, notamment non seulement la dimension meurtrière, mais aussi un petit peu le profil ethnique et sociologique, en fait, des victimes, de ces 70 000 victimes. Alors, le conflit armé, c'est fini en l'année 2000. Moi, j'aime bien quand même revenir toujours sur le terme de conflit et post-conflit. Le terme de post-conflit, moi, je l'utilise entre parenthèses, dans le sens où si effectivement l'année 2000 signe la fin du régime de Fujimori, qui est aussi une situation un peu rocambolesque, qui va démissionner par fax depuis le Japon. Donc, dans ce contexte-là, c'est qu'on peut enfin revenir en fait, sur ce conflit armé qui a duré 20 ans. En fait, et c'est un peu justement la transition démocratique qui fait suite justement à la fuite de Fujimori et à cette espèce de scandale de corruption qui va permettre la mise en place d'une commission pour la vérité et la réconciliation voilà, d'une transition démocratique qui poussera aux premières élections en fait, qui s'en suivent après l'année 2003. Mais il est quand même important de souligner que comme toute transition, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui se jouent et au cœur de cette transition. Et par la suite, on va retrouver justement la question des batailles mémorielles, en fait, justement parce que même si il y a eu ce dévoilement de ce que c'était réellement le régime de Fujimori, sa mémoire, donc ce qu'on appelle Carlos Iván de Gregory, un anthropologue péruvien, appelle la mémoire salvatrice, va être particulièrement présente même dans l'actualité. En fait, on le voit dans l'actualité très très récente. Donc voilà, ça sera un petit peu le contexte actuel.
Alors, je fais encore un peu de parenthèse politique, parce que vous parlez du régime de Fujimori, donc qui était le président qui a démissionné en 2000, mais au début du conflit armé, c'est pas Fujimori le président, c'est Alan Garcia, ou alors peut-être que je me trompe.
Oui, c'est Belaunde.
Oui, c'est Belaunde, puis Alan Garcia, puis Fujimori qui reste 10 ans. Donc
d'accord.
Ça fait les 20 ans, en fait.
Mais ce ne sont pas des présidents élus.
Oui. C'est juste que comme Fujimori est resté 10 ans avec... enfin bref, il a fait un autocoup d'État, il s'est un peu enquisté, en fait, dans le gouvernement. C'est ça ce qui va faire qu'on parle aussi d'une dictature, en fait, dans ce sens-là.
D'accord. Et alors, j'en profite justement, parce que je crois qu'il y a quand même une actualité politique... qui bouge beaucoup au Pérou. On va avoir des élections bientôt, si j'ai bien compris. La présidente actuelle, c'est Dina Boluarte, qui est arrivée au pouvoir de façon un peu étrange aussi. Il y avait un président élu, Pedro del Castillo, qui a été chassé du pouvoir. Apparemment, la transition, je ne sais pas si c'est une transition de Dina Boluarte, c'est pas très bien passé. Je sais pas si vous voulez en dire deux mots, juste qu'on est un peu...
Oui, peut-être juste rajouter, alors c'est plus Dina Boluarte qui est au pouvoir et bon, les présidents échangent très, très rapidement au Pérou, malheureusement en fait là on enchaîne cette présidente en fait en 10 ans, ce qui est quand même assez, un nombre assez conséquent, mais actuellement c'est Heli en fait qui se retrouve à la tête, qui assure l'intérim en tout cas jusqu'au prochaines élections, mais le Pérou effectivement se trouve dans l'actualité dans un cycle d'instabilité, crise politique et de contestation sociale, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation à la fois du secteur transport et de la jeunesse, en fait, dans un contexte un peu de criminalité que vit le Pérou actuellement, mais qui témoigne aussi en fait de cette instabilité politique qui éclate et justement qui fait partie des principales revendications des mobilisations dans l'actualité.
Oui, mais pendant presque 20 ans après la démission de Fujimori, qu'est-ce qui a passé avec les mouvements de la mémoire ou de la bataille de la mémoire au Pérou? On voit par exemple que Castillo il a été élu surtout parce qu'il il est plus proche aux peuples autochtones de l'Amazonie, mais pendant ce gouvernement qui s'est et pas, ouais, c'est pas un gouvernement et tout long. Et qu'est passé avec les peuples autochtones, par exemple?
Oui, alors peut-être pour démarrer en prenant un peu l'image de Fujimori, qui est décédé récemment aussi, à mon avis, c'est important en fait de revenir sur le fait que c'est pas parce que Alberto Fujimori est décédé que le Fujimorisme est décédé aussi. Enfin, c'est-à-dire, ça reste une force particulièrement importante qui, disons, occupe une partie hégémonique au sein du Parlement. Et ça me semble important de mentionner cela, parce que justement c'est au sein de cette coalition parlementaire où le Fujimori joue un rôle très important, où on peut retrouver aussi toute cette question mémorielle, c'est-à-dire cette coalition qui gouverne en fait le pays, va développer tout un discours à la fois très négationniste vis-à-vis de, des massacres en fait, qui se sont menés pendant le conflit armé, et dans le cadre de cette rhétorique négationniste, il y a aussi une disons reformulation de ce racisme en fait très présent au sein du Pérou, des structures de pouvoir, de quelques partis qui laissent justement les peuples autochtones, que ce soit les Andes, que ce soit l'Amazonie, un peu comme des citoyens de deuxième classe en fait. Et là je cite textuellement Alan Garcia, qui était voilà aussi un président pendant le conflit armé, et on peut voir donc même 20 ans après le conflit armé que on retrouve quand même le même profil des personnes qui continuent d'être, disons, de subir les principales violences en fait, de la part d'un pays qui n'a pas réussi à dépasser les inégalités en fait, qui se retrouvent au cœur du pays, et qui, dans des contextes de mobilisation, et je cite très brièvement les mobilisations des années 2022-23, période post-Castillo, vont être aussi les principales victimes. Donc je mentionne quand même que parmi les 50 morts qu'il y a eu, effectivement, c'était surtout les Andes du Sud. On retrouve exactement, presque la même cartographie des victimes en fait, que pendant le conflit armé. Ce qui nous montre qu'il y a un continuum de violence en fait, et que sont aussi les mêmes personnes qui subissent en fait, cette violence d'État.
Alors, l'État péruvien aujourd'hui reconnaît qu'il y a eu un conflit armé, qu'il y a eu des victimes. C'est juste le mouvement fujimoriste qui efface cette mémoire des victimes, ou quand même l'État péruvien lui-même est dans un certain déni par rapport à cette mémoire?
Alors, disons que l'État péruvien a dû reconnaître, en fait, notamment dans le cadre de la transition, donc de 2001-2003, il y a la CVR, le rapport final, enfin bref, c'est quand même un rapport qui a été demandé par l'État, donc c'est une reconnaissance officielle de ce qui s'est passé, mais par la suite, les différents gouvernements et les différentes coalitions ont fait usage du rapport de force qu'ils avaient au sein du Parlement pour voter toute une série de lois en fait, qui allaient justement à l'encontre en fait, de cette reconnaissance de l'État de la part des responsabilités en fait, au sein du conflit armé. Par exemple, le musée de la mémoire qui était censé être créé juste après en fait, la commission, le rapport final, a mis énormément d'années en fait, à être mis en place, parce que justement il y avait beaucoup de réticences de la part du Parlement. Le secteur de la culture, chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre, un film, etc., qui parle sur la responsabilité de l'État, par exemple, au sein du conflit armé, ça va aussi être, ça peut subir justement de la censure. Il y a un terme aussi important à souligner, il y a la question de l'apologie pour terrorisme, qui est aussi quelque chose qui est souvent utilisé pour criminaliser toute une série de productions qui pourraient justement mettre l'accent sur la responsabilité de l'État. C'est-à-dire toute une série de productions qui iraient à l'encontre de ce que je nommais justement comme la mémoire salvatrice, en fait. Et ce n'est pas que le fujimorisme, c'est une coalition. Alors il y a le fujimorisme et les forces armées, en fait, celles qui sont impliquées à la suite, disons, du rapport de la commission de la vérité et la réconciliation. Bien sûr, il n'y a pas que la mémoire salvatrice, où il n'y a pas exactement une mémoire officielle, mais il y a toute une série de mémoires. Donc effectivement, celles-ci se trouve un petit peu dans l'hégémonie de ces batailles mémorielles. Mais il y a aussi, il faut le mentionner, les mémoires des vaincus, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les mémoires des membres du Sentier Lumineux, du MRTA, en fait, des personnes qui ont purgé des années en prison, en fait, et qui maintenant ont aussi produit des livres, en fait, par rapport à leur rôle au sein du conflit armé. Il y a aussi les mémoires régionales, en fait, des populations autochtones. Enfin bref, il y a toute une série de mémoires entre hégémoniques et subalternes. Et c'est vrai que ce qui se joue un peu dans l'actualité, c'est de voir dans quelle mesure les personnes qui se trouvent un petit peu à la tête du pouvoir vont réussir à mettre en place ce qui a été préconisé par ce rapport final de la CVR, en fait. Parce que jusqu'à présent, effectivement, tout ce qui est réparation, etc., en fait, est très loin d'avoir été mis en place. On est encore dans une situation de très, très grande impunité.
CVR, Comité Vérité Réconciliation. Oui, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais dans ce déni de l'État, c'est que l'État n'a pas du tout le monopole des victimes, puisque le Sentier Lumineux a causé plus de la moitié des victimes pendant ce conflit.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose quand même à préciser par rapport au conflit armé péruvien. Effectivement, la plus grande partie des victimes ont été, au sein du rapport qui a été établi, sont responsabilité du Sentier Lumineux, en fait. Mais disons, les militaires ont aussi écrit leur rapport, en fait, leur histoire de leur rôle au sein du conflit armé. Ça me semble important de préciser que cette non-reconnaissance est quand même essentielle dans la vie politique, dans le sens où Fujimori et le fujimorisme s'est construit justement par cette rhétorique de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il a construit un peu sa base électorale, sa base sociale, qu'il a réussi à faire son auto-coup d'État en disant « on va vous défendre de l'ennemi intérieur ». Et c'est comme ça, en fait, c'est exactement ce même discours qu'on peut trouver dans l'actualité.
Et c'est ça
ce qui est, disons, c'est la question la plus puissante, en fait. C'est pour ça que je parlais du fujimorisme malgré la Fujimori. C'est-à-dire que ce discours de l'ennemi intérieur, du danger, du danger éventuel d'un sentier lumineux qui n'existe plus, continue de peser très fort, en fait, dans les discours politiques et continue à être utilisé justement pour rester au pouvoir.
Alors, on va essayer de parler de l'Enfazep un petit peu tout au long de l'entretien. Là, juste en quelques mots, Enfazep, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ANFACEP, c'est en espagnol l'Association nationale des familles des personnes séquestrées, détenues et torturées du Pérou. C'est une association qui a été fondée en 1983 à Ayacucho, qui se trouve dans les Andes du Sud au Pérou. Et il me semble important de souligner qu'il y a une association qui est composée essentiellement de femmes autochtones, de femmes quechuafones. Et je précise cela parce que peut-être une image qui pourrait nous venir à l'esprit, parce que c'est quand même sont une figure internationale de défense des droits humains, c'est les maires de la place de Mai, en Argentine, je pense qu'on pourrait effectivement dire que ANFACEP serait un peu la version péruvienne, en fait, des maires de la place de Mai. À ceci près que justement, dans la mesure où il s'agit de femmes autochtones, souvent monolingues quechua, elles vont être confrontées à d'autres types de discrimination et de violence d'État du fait de processus de racialisation de discrimination de classe. Donc elles ne vont pas incarner, malheureusement, en fait, comme ça peut être le cas des maires de la place de Mai, ce symbole national pour un certain nombre de personnes ou d'institutions qui les renvoient vers ce spectre ethnique, en fait.
Alors justement, on va écouter une femme chanter en quechua, puisque nous allons écouter tout de suite Antonia Rodriguez. Alors je ne vais pas vous dire le nom de la chanson, vous nous le direz peut-être après.
Presidente Juan Rima y cosa, Presidente Juan Parla y cosa, y matan espaniptinja, ay catan espaniptinja, papil chaleta mapamoni, tu arma llamaré chincas fanta, coya llamaré chincas fanta. Le maya pichum caruya, apostulia pichum adium la, la talle pipas cachcangoni, cachi cachi chasutillo, pogyu chanis hama patambi, pogyu chanis hama patambi. Patay ki manta hawai kamuktiha ang kwasip. Ladoy ki manta hawai kamuktiha ang kwasip. Ima sumahmi mo siyo langwang ang kwasip. Hay ka sumahtang
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le titre de la chanson qu'on a entendue, Tania Romero Barrios?
Oui, ça s'appelle Apapel Chayaitam Apamouiki, qui veut dire je suis venue juste en rapportant les documents, les papiers en fait, du disparu de ma famille.
Donc là, on va parler d'un des projets de l'ONFASEP qui s'appelle Cantar para Contar. Dario, je te laisse.
Oui. Et comme on a entendu. C'est une chanson en quechua, qui est une langue d'un peuple autochtone andine. Et c'est pas seulement, je crois, le Pérou, mais peut-être il y a un peu de Chili, je sais pas la Bolivie. Je sais pas si la Bolivie a aussi des quechua.
Il y a aussi des quechuaphones.
Mais bon, et Tania, comment les quechua peuvent mettre en importance la lutte pour la justice, et la mémoire? Dans les contextes des violations des droits humains.
Très spécifiquement pour le cas péruvien, je pense qu'une donnée qui a été mentionnée au tout début est particulièrement importante, c'est-à-dire le fait que 75% en fait des victimes mortelles du conflit armé étaient des personnes qui n'avaient pas l'espagnol pour langue maternelle, c'est-à-dire qu'elles parlaient le quechua ou une autre langue autochtone du Pérou. Cependant, les personnes qui ont même été à la tête de la commission Vérité et la Réconciliation, les personnes qui se retrouvent à la tête du pouvoir, l'académie même, ne maîtrisent pas forcément cette langue. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé justement de mettre un petit peu l'accent sur cet élément-là linguistique, parce qu'il est important justement que ces mémoires qui sont produites en langue autochtone par les personnes qui sont quand même la majorité des personnes concernées par ces violences d'État puissent aussi apparaître en fait dans ces récits post-conflit et puissent apparaître sans qu'on puisse vraiment, les appréhender depuis la langue autochtone et pas forcément à partir d'une traduction, ce qui est malheureusement souvent le cas. En fait.
Ok, et dans ces cas, tu as bien dit, mais pourquoi pas l'espagnol pour arriver à toute la population de Pérou, par exemple? Comment les Quechua, les dons aux femmes et des peuples autochtones, je ne sais pas si en particularité, mais un espace ou une capacité différente pour lutter contre les oubliés.
Il faut savoir qu'au Pérou, et à Ayacucho, on le voit très clairement, le quechua, c'est la première langue d'une bonne partie de la population, qui est aussi monolingue. Je pense que c'est important de préciser, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que le quechua. Et c'est important de préciser que parmi les personnes monolingues quechua, il y a surtout les femmes qui se retrouvent dans cette situation, parce que souvent les hommes doivent partir, en fait, pour travailler dans les villes, etc., dans d'autres endroits où ils sont en contact avec d'autres langues. Ça me semble important. Pourquoi ? Parce que pendant très très longtemps, tout ce qui était axé en fait à la justice, tout ce qui était axé à toute une série de services en fait qui devaient être proposés par l'État, ne se faisait qu'en espagnol en fait. Et ces personnes qui, pour une bonne partie, ne maîtrisent que le quechua, et souvent ne maîtrisent pas l'écriture, en fait, ont besoin de passer par l'oralité, ont besoin de passer par cette langue pour pouvoir s'exprimer en fait. Et c'est justement cette absence qui est soulignée dans le cadre de ce projet, parce que malheureusement les mémoires, ou en tout cas les productions ou même les services qui doivent accompagner aux victimes ont souvent été biaisés un petit peu par cette hégémonie de l'espagnol et l'hégémonie de l'écrit qui ne marche pas complètement en fait si on veut faire un travail notamment sur des questions aussi délicates en fait que la violence politique.
Et le quechua, c'est plus une langue orale qu'écrite?
Oui, le quechua à la base est une langue orale en fait, c'est-à-dire que l'écriture, elle est arrivée avec les Espagnols et dans un processus de d'évangélisation, c'est-à-dire que lorsque les Espagnols ont essayé d'évangéliser les populations quechuaphones, ils devaient maîtriser la langue, créer des grammaires, etc. pour pouvoir créer des bibles en fait en quechua et pouvoir instaurer ou en tout cas diffuser le catholicisme. Mais à la base, le quechua est une langue orale et les personnes qui la parlent ne l'écrivent pas forcément, en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important à souligner.
Oui. Alors, je vais vous demander de ne pas être trop longue pour une question qui est certainement un peu compliquée. Cantar para contar, donc en français, on pourrait traduire ça par chanter pour raconter. C'est plutôt un projet politique ou un projet thérapeutique ?
Alors... C'est plusieurs choses en même temps. Cantar para contar fait partie du projet plus grand qui s'appelle Warmikuna, Voix, Visage et Mémoire. C'est un projet qui part de la recherche création, de la recherche action, et qui porte sur un sujet qui est traversé par des enjeux politiques. Mais dans la mesure où la méthodologie a justement affaire à une méthodologie incarnée, alternative, etc., et disons un peu la spécificité de la recherche-action, c'est aussi qu'il y ait des conséquences, en fait, dans ce qu'on est en train de faire, qui touchent aux populations avec qui on travaille. Et c'est dans ce sens-là que le projet a pu avoir des conséquences thérapeutiques, dans tous les cas, qui ont été précisées par les personnes qui ont participé. Mais ce n'est que quelques éléments, en tout cas, du projet.
Alors, on va passer à une pause musicale. Là, on va quitter un peu le Pérou. On va partir un peu à la fois en Ukraine et en Italie, puisque c'est une très jeune star ukrainienne qui s'appelle Amélie, mais qui vit en Italie et qui chante une chanson qui s'appelle « Dit des coups » dédiée à son grand-père qui est mort à la guerre.
Questa canzone la voglio dedicare al mio fan numero uno. Il suo ultimo desiderio è stato quello di dedicare la canzone non solo per lui, ma anche per tutti i nonni del mondo. Lui nella mia vita sarà sempre vivo e sarà sempre accanto a me.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Tania Romero Barrios, doctorante à l'Université Paris 8, qui travaille sur le projet Warmikuna avec l'ANFAZEP, l'association des victimes du conflit armé au Pérou. Et ce projet Warmikuna, visage, mémoire et... Pardon, j'ai oublié le troisième mot dont nous allons parler plus précisément. Alors, nous avons justement une présentation en espagnol que nous allons passer et que Dario va nous traduire en direct.
Muy buenos días con todas y todos los presentes.
Je m'appelle Juana Carrión Jaules, la présidente de l'Association nationale des proches des personnes enlevées, détenues et disparues du Pérou. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les institutions qui ont soutenu cette exposition de Warmicuna de Afacep et aussi tous les participants qui sont dans cette exposition. À toutes les et tous, je vous souhaite la bienvenue à cette exposition. Le travail des femmes de Afacep, ce sont les chansons, les tissus, les broderies que nous exprimons sur ces tons en ce sens pour qu'ils soient diffusés pour que d'autres pays sachent ce que nous avons souffert. Nous sommes avec ce projet, avec señorita Tania, de 2007 à 2022, mais nous continuons ensemble aussi avec les tricots, les broderies et les chansons avec les Bernard Facep. Voilà donc le projet que señorita Tania nous a apporté pour exprimer nous et nos sentiments envers nos proches qui ont été détenus et ont disparu. Merci beaucoup.
Alors, ce projet Warmicuna, on va essayer d'en parler plus en détail. Déjà, il se décline en plusieurs médias, si je puis dire ainsi. Il y a une exposition photographique qu'on peut voir en ce moment à la Maison des sciences humaines à Aubervilliers. Il y a deux livres, il y a des ateliers de création et je crois que j'oublie une ou deux choses. Si vous pouvez compléter, Tania.
Oui, il y a, disons que tout est rassemblé un peu au sein de l'exposition, mais effectivement, il y a toute une série de vidéos qui ont été enregistrées, qui ont été compilées de chansons, en tout cas des femmes d'Amfacep, qui ont été composées en quechua par les femmes d'Amfacep, qui se trouvent sur Internet, parce qu'il y a un site du projet, et qui se retrouvent aussi au sein de l'exposition.
Alors, je me disais que pour rentrer dans cette exposition, on pouvait faire un exercice de description. En fait, on a ici, en studio avec nous, des cartes postales que l'on peut voir à l'exposition. Et on va en prendre une et vous allez nous la décrire, Tania Romero Barrios, si vous voulez bien.
Oui, alors ces cartes, juste pour préciser, ont été créées en fait pour diffuser d'un côté le projet, mais aussi pour créer une dynamique en fait participative pour les personnes qui participeraient aux ateliers de muséographie participative et qui participeraient aux visites guidées de l'exposition. Donc sur les cartes, d'un côté vous pouvez trouver soit des cartes où on peut écrire, soit des cartes où il y a des extraits de chansons en quechua, espagnol et en français. Dans celle que j'ai prise, en fait c'est une photo qui a été prise à La Hoya. Enfin, c'est des photos que moi j'ai prises dans le cadre de mon travail de terrain. La Oyada pourrait être décrite comme une sorte d'immense fosse commune en fait, qui se retrouve à Ayacucho, qui était à côté de la caserne Los Cavitos en fait, et où on soupçonne que sont enterrés des centaines en fait de restes humains. Il y avait même un four en fait, donc c'est un espace à la fois de mémoire, mais c'est aussi un espace, disons, de bataille mémoire. Parce que les femmes d'Amfacep revendiquent cet espace en tant que sanctuaire de la mémoire. Et dans la photo que je suis en train de regarder, c'est une photo qui reflète un des rituels pour les morts, en fait, un rituel funéraire qui se fait dans les Andes et qui, disons notamment à la Toussaint, en fait, fait que les populations andines laissent en fait des offrandes pour leurs morts. Donc là, on peut voir une femme d'Amfacep qui est en train de laisser du tantawawa, c'est un pain des Andes, en fait, des fruits, etc., de la feuille de coca, pour rendre hommage, en fait, à la personne qui est morte, en fait, ou disparue. Et j'insiste sur cela parce que la plupart des femmes d'Amfacep n'ont pas retrouvé leur famille disparue. Mais ils ont besoin d'aller se recueillir dans cet endroit et faire ces offrandes qui sont particulièrement importantes dans les Andes, où la relation entre les vivants et les morts est essentielle pour l'équilibre de la communauté.
Alors, justement, je vais revenir sur l'exposition. Donc j'ai dit qu'on pouvait la voir à Aubervilliers, seulement en visite guidée, c'est ça ?
Oui, pour l'instant, la salle n'est pas ouverte au public, mais on va faire une visite guidée le 26 novembre de 18h à 20h. Et il y aura aussi l'exposition, la visite guidée finale, le 19 novembre, le 19 pardon, décembre, dans le cadre du colloque Warmikuna. Donc le soir, à partir de 17h, 18h, en fait, on fera la visite de clôture.
Et elle sera peut-être montrée ailleurs en 2026.
Mais oui, c'est ça. On travaille sur ça justement, de pouvoir l'exposer ailleurs, en tout cas en France pendant quelques mois, et par la suite au Pérou, parce que l'idée c'est qu'elle puisse être justement exposée aussi au Pérou.
Alors, cette exposition qui sert justement à montrer le travail de l'emphasep, à le faire connaître, ce travail de mémoire, qu'est-ce qu'elle a dans sa forme, je dirais, de particulier? Qu'est-ce qui la différencie d'autres expositions?
Oui, alors cette exposition est le fruit en fait d'un travail collaboratif qu'on a mené avec Infacep. Il me semble important de souligner ça en tant que chercheuse en fait, parce que c'est vrai que les premières interrogations, en tout cas qui ont mené à la constitution de ce projet, étaient des interrogations de recherche en fait, d'éthique de la recherche, de comment on travaille sur des sujets sensibles avec des personnes qui ont vécu ces violences. Et ce qu'on a construit, on l'a construit avec Infacep, c'est-à-dire on a créé l'ensemble du projet avec elle et on a fait en sorte à ce que depuis le début, c'est pour ça qu'on parle d'atelier de muséographie participative, les membres d'Infacep puissent faire partie prenante de l'ensemble des étapes en fait de cette construction. Donc à mon avis, la spécificité de cette exposition, c'est d'un côté la dimension de co-construction en fait de l'exposition, d'un autre côté le fait que, alors parce que la langue quechua est au centre de l'exposition, en fait. Donc, il y a un peu un décentrement linguistique, un décentrement épistémologique aussi. Et on peut voir effectivement des productions qui ont été créées entre deux continents, entre deux pays, puisqu'on est allé produire, broder, compiler au Pérou et on a ramené tous ces éléments-là ici en France par la suite.
Les ateliers muséographiques, ils ont lieu au Pérou ?
Ils ont eu lieu au Pérou et en France. C'est-à-dire que, alors peut-être juste pour préciser, parmi il y a des photos, mais il y a des photos qui sont imprimées en format très très grand sur bâche textile, qui ont été brodées aussi bien au Pérou qu'en France. C'est-à-dire que au sein de plusieurs ateliers qu'on a fait en France, plusieurs personnes qui ne connaissaient parfois pas du tout l'histoire du Pérou ont participé aussi à la broderie de ces immenses photos, dans la perspective justement de pouvoir réaliser et elles aussi ces dynamiques d'offrande en fait et de connexion en fait avec la thématique qu'on était en train d'aborder dans ces ateliers.
Alors le projet Warmikuna, il s'inscrit dans une dynamique de recherche-création et recherche-action. Vous avez utilisé ces mots. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un peu ?
Oui, alors justement, je disais que les interrogations de base se trouvaient dans le cadre d'une réflexion que je menais au sein de ma thèse, mais le format thèse était insuffisant en fait pour pouvoir les traiter. Et le format un peu typique utilisé par les sciences sociales classiques, si on peut dire ça comme ça, restait aussi insuffisant, disons, face à quelques problématiques qui émergeaient et qui touchaient au fait de comment faire ce travail, par exemple, sans revictimiser les personnes avec qui on est en train de travailler. Comment ne pas, ou en tout cas favoriser ou laisser exister cette espèce de hiérarchie qui s'installe souvent entre chercheurs, chercheuses et personnes à qui on est en train de, avec qui on est en train de travailler, comment un peu subvertir en fait ces hiérarchies. Et ça a poussé justement à créer au sein, et j'insiste sur les processus collectifs, on a vraiment tout discuté au sein d'assemblées générales, etc., de créer des espaces, par exemple pour la compilation, des espaces d'écoute collective, de discussion, en fait, au sein des ateliers, par exemple de broderie, qui soient, disons, à même de pouvoir briser un petit peu ces des écueils qui empêchaient en fait d'aborder ces sujets sensibles. Donc c'est ce côté touche à la recherche création, mais la recherche action se voit justement dans la, un petit peu les produits de ces de tout ce travail, dans le sens où c'est pas juste une exposition, mais cette exposition est quand même un élément fondamental dans un contexte justement de négationnisme. Et c'est important aussi qu'elle puisse exister, qu'elle soit protégée d'une certaine façon, parce qu'elle est un peu, comme elle est hébergée en France, disons, on peut pas la censurer, comme ça peut arriver en fait au Pérou, malheureusement. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir, par ces contributions, rajouter un petit peu une pierre à cet édifice des batailles mémorielles actuelles.
Alors, en fait, pour imaginer, donc, vous partez en thèse. En quelle année vous commencez votre thèse?
Il y a très longtemps.
Et vous partez et vous devez donc travailler sur le post-conflit, le conflit armé. Et vous arrivez, vous pensez au départ faire des entretiens avec typiquement des femmes quechuas qui ont perdu des proches. Et voilà, et vous vous dites, il va falloir travailler autrement, quoi.
Disons, dans mon cas, la situation s'est posée un petit peu différemment, dans le sens où, alors moi je travaille sur la littérature à la base, donc disons que moi, lorsque j'ai rencontré un FACEP, ce n'était pas au début dans une perspective de travailler forcément sur leur production, parce que je travaillais notamment sur la production écrite en fait. Donc je cherchais, j'avais fait des études de quechua, donc je cherchais des productions écrites par des femmes en quechua, ce qui était un petit peu un échec parce que structure, voilà, qui font qu'elle n'ait pas pu produire et publier énormément. Mais j'ai rencontré un FACEP parce que je suis aussi très présente au sein des mobilisations pour la défense des droits humains. Et c'est un peu dans cet échange-là, en fait, qu'est né le projet. Et ce projet a aussi, par conséquent, bouleversé ma thèse. Enfin, c'est-à-dire, à la fin, c'est la naissance de ce projet qui a fait que, justement, ces compilations se retrouvent aussi au cœur du corpus quechua de ma thèse. Et effectivement, dans ce sens-là, il fallait se poser des questions difficiles pour pouvoir, disons, mener un travail qui soit éthique, qui se fasse aussi... alors moi, je suis une chercheuse féministe, donc je m'interroge aussi beaucoup sur les dimensions méthodologiques, en fait, notamment lorsque, voilà, il s'agit de faire un travail avec les femmes. Et puis aussi, toute une question qui touche à l'épistémologie et au savoir zondin, voilà, enfin, pour réfléchir, pour aboutir à quelque chose qui puisse être en cohérence avec le projet.
Et dans cette histoire de ton approximation à la recherche, est-ce que InfaCEP est-elle l'unique association liée au peuple autochtone au Pérou? Et aussi, quelles sont les particularités d'InfaCEP dans le contexte des associations des droits humains? Et en Amérique latine.
Oui, alors il ne s'agit pas de la seule. Il y a beaucoup d'associations, de collectifs, d'organisations de peuples autochtones en Amazonie et dans les Andes. Après, disons, même le terme porte à débat, en tout cas au Pérou, parce que l'histoire du Pérou fait que le terme indigène ne soit pas utilisé de la même façon qu'elle peut exister en Équateur ou en Bolivie. Mais dans tous les cas, la spécificité d'InfaCEP, c'est qu'elle se concentre notamment sur la question de la quête des disparus. Il y a toute une série d'autres organisations qui, par exemple, vont se concentrer un petit peu sur la question des déplacements forcés, la question, par exemple, des stérilisations forcées aussi, qui ont touché notamment les femmes autochtones. Et disons que InfaCEP a pu avoir un rayonnement, au sein du mouvement des droits humains. Mais il faut quand même préciser aussi toute une série de limitations, structurelles, et qui touchent au fait que, dans la mesure où il s'agit de femmes qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'espagnol ou qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'écrit, elles confrontent aussi beaucoup de difficultés à pouvoir avoir un rayonnement autre, en fait, à échelle internationale.
Alors, on va écouter une nouvelle chanson d'une personne de l'InfaCEP, c'est Sergia Flores, El cielo está nublado, le ciel est nuageux. Cette chanson, cette fois, n'est pas en quechua, mais en espagnol.
El cielo está nublado, la luna está de luto. El cielo está nublado, la luna a se lo mesmo io te detto e lo e la se trele se tan detto e lo a se lo mesmo io te detto e lo a se 36 años te detto e lo donde estás donde te llevaron donde estás donde te llevaron qué cosa te hicieron qué cosa te hicieron años años estoy caminando llamando tu nombre años años estoy caminando buscando por tu nombre llamando tu nombre.
Les voix du crépuscule. Anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Tania Romero Barrios, doctorante à l'Université Paris 8, qui nous parle du projet Warmikuna, projet trilingue français-espagnol-quechua, pour faire connaître la mémoire des proches de victimes du conflit armé péruvien de 1980, enfin qui a sévi entre 1980 et 2000. Tania, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette chanson en particulier ?
Alors, c'est une chanson en espagnol, il n'y en a pas énormément en espagnol, en tout cas dans le corpus Cantar para Contar, mais effectivement, pour les personnes qui comprendraient l'espagnol, peut-être c'est plus compréhensible, en tout cas un petit peu cette dimension aussi de, comment dire, des éléments naturels qui se retrouvent toujours au sein des chansons des femmes d'Infacep. Les femmes d'Infacep s'adressent au ciel, aux pampas, aux montagnes, aux rivières, puisque tous ces éléments-là, enfin, bon, pour ne pas broder sur voilà, le rôle de la nature, en tout cas dans les Andes, mais c'est aussi des témoins de leur parcours, leur trajectoire de quête, en fait. Donc, ça me semble important quand même de souligner ça.
Alors, il y a une chose dont on a parlé, il y a un mot qu'on a utilisé dans la deuxième partie, quand vous parliez de l'éthique du projet, sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le mot « revictimisation ». De quoi on parle quand on parle de revictimisation ?
Oui, tout à fait. Je pense que le terme de revictimisation et le terme d'extractivisme académique sont quand même deux termes qui ont été au cœur en fait, des réflexions du projet. Et j'insiste, c'est un projet collectif qui rassemble des traducteurs, des chercheurs, chercheuses, des artistes, au sein desquels, justement, on ne voulait pas recréer des choses que, malheureusement, on avait vues au sein de la recherche ou même d'autres organisations, même parfois de défense des droits humains. Et c'est justement le fait de, comment dire, faire en sorte, enfin, faire passer l'objectif, en fait, par-dessus les personnes avec qui on est en train de travailler. C'est-à-dire que revictimiser la personne avec qui on travaille implique la faire subir une deuxième fois ces violences qu'elle a dû subir déjà au sein du conflit armé. C'est quelque chose qui peut être, qui peut arriver notamment par exemple dans des entretiens en fait, lorsqu'on leur demande pour l'énième fois en fait de raconter les violences qu'elles ont vécues. C'est des choses qui malheureusement ne sont pas traitées parfois de façon très éthique en fait, et c'est un petit peu le questionnement qu'on se fait en fait au sein de l'équipe. C'est comment créer un cadre justement, et c'est pour ça que les chansons sont aussi une alternative aux témoignages. Enfin, on s'accompagne aussi d'entretiens, mais elles permettent aussi de raconter autrement en fait ce qu'elles ont vécu en chantant collectivement en fait, en créant des espaces de parole. On peut ne pas tomber dans cette espèce de victimisation pure et dure qui peut parfois exister dans les entretiens, et ça nous permet aussi de ne pas faire ce qui existe malheureusement parfois dans la recherche, qui est l'extractivisme académique, c'est-à-dire c'est-à-dire aller cueillir des données et puis partir. En fait, le projet Warmikuna, c'est justement quelque chose qui n'a pas cette perspective. C'est pas une construction personnelle, mais l'objectif est de pouvoir construire avec la communauté avec qui on travaille et que les productions, les conséquences, les répercussions puissent toutes les retombées être justement partagées avec les personnes avec qui on travaille et que ces personnes-là puissent aussi faire partie. On parlera après du colloque, mais de tout le processus, en fait, que ce soit académique, artistique, etc.
Mais ce sont des chansons qui ont été créées par les membres des Infacep.
Oui, tout à fait. Alors, les chansons, pour exprimer le vécu des femmes ondines, c'est quelque chose qui se fait de très longue date. Et d'ailleurs, elles ont même un rôle un peu spécifique au sein de quelques pratiques funéraires. Et en l'occurrence, il s'agissait de chansons qu'elles avaient elles-mêmes composées pour se souvenir, en tout cas, de leur trajectoire de lutte, de leur famille proche disparue de force, mais qui n'avaient pas été en tout cas chantée dans un cadre public, et c'est un petit peu le côté inédit du projet, c'est-à-dire que le projet a donné ce cadre, enfin justement pour que ces chansons puissent atteindre un public plus large. On a traduit aussi les chansons pendant plusieurs très longtemps avec une équipe de l'INALCO, on les a traduites vers l'espagnol, vers le français, et elles vont être publiées justement dans un ouvrage dans la perspective de pouvoir ouvrir le sens de ces chansons, mais en partant toujours, en tout cas, du quechua.
Mais pourquoi ces chansons, l'expo, est pu valoriser, on peut dire, l'histoire, et comment les membres d'Infacep, je ne sais pas si je peux dire utilisent, mais utilisent surtout les. Ton expo et aussi le travail autour des chansons pour faire de la mémoire de son propre histoire.
Alors, je pense qu'il faut quand même mentionner le fait que malheureusement, on dépasse même le cadre des batailles mémorielles, malheureusement, il y a cette espèce de construction qui s'est faite, c'est un stéréotype par rapport aux femmes andines qui seraient des personnes victimes, dépolitisées, enfin bref, sans aucune agentivité. Et ces chansons permettent d'être un immense contrepoint justement à cette vision très stéréotypée qui existe dans l'actualité. Et à travers ce corpus, l'idée, c'est de montrer que ce corpus existe, en fait, et il a toujours existé. Ces voix aussi, en fait, ces auto-représentations sont là. Le problème, c'est que nous, en tant que chercheurs, chercheuses, on a souvent été pas en mesure de pouvoir les entendre ou en tout cas les comprendre. Et si on pouvait le faire, et c'est pour ça toute la traduction, le travail de traduction qu'on est en train de faire, on se rendrait compte en fait qu'il y a eu beaucoup d'écueils dans la production qui a été faite, même au sein de la recherche, sur les processus mémoriels et notamment sur les femmes autochtones et la mémoire en fait. Donc l'idée, c'est qu'on puisse montrer un corpus qui est un immense contrepoint pour raconter autrement aussi l'histoire du conflit armé, depuis les voix des femmes, depuis les voix des femmes autochtones et depuis leur propre construction mémorielle, en fait, leurs propres auto-représentations, justement pour complexifier un petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent.
Tania Romero Barrios, est-ce que vous pouvez nous faire en 2 minutes une petite visite guidée de l'exposition ?
Et oui, alors, dans l'exposition, il y a plusieurs éléments, en fait. On avait dit qu'il s'agit d'une exposition qui rassemble des photographies. Alors, il s'agit de mes photos de terrain, donc de 2017 à 2024, qui sont en 2 formats, en petit format ou même en 3 formats. Les petits formats, c'est les cartes postales qui se trouvent au début et à la fin de l'exposition. Les formats A3 qui cherchent à raconter un petit peu cette histoire de rencontre en fait avec un FACEP. Et trois immenses photos qui ont été choisies par les membres d'un FACEP pour structurer l'exposition. Une première photo à La Hoyada, dont j'avais parlé, cette espèce d'immense fosse commune dans une pampa à Ayacucho, où on voit une femme qui est en train mettre des fleurs à côté des croix, donc de rendre hommage aux morts, en tout cas susceptibles de se retrouver dans cet espace. Donc j'insiste, la plupart des personnes ne savent pas où se trouvent les restes de leur corps, donc elles vont se recueillir là-bas. Et l'idée, c'est que cette première photo soit une photo offrande, c'est une photo qui déborde. Donc il y a une nappe, il y a des broderies, et l'idée, c'est que les visiteurs puissent aussi laisser une offrande dans cette partie-là. La deuxième photo, donc ça c'est la quête. La deuxième photo, c'est une photo de manifestation, en fait, où on voit un FACEP avec une immense banderole, la banderole de l'association, qui est aussi appelée la Luchadora, qui les a protégés. Sauf que cette banderole est dédoublée par une autre banderole qui a été brodée par les membres d'un FACEP avec les noms des disparus. Troisième photo, c'est une image de jeune féministe aussi, une batuqueda aussi à la Pampa, enfin à La Hoyada, qui montre justement un peu l'espoir de cette transmission de la mémoire intergénérationnelle. Toutes les photos débordent et toutes les photos ont été brodées dans différents ateliers de muséographie participative et sont là pour que le public puisse véritablement les toucher et interagir avec ces immenses photos. Il y a aussi quelques chapeaux et une carte d'Ayacucho qui sont censés raconter l'histoire du conflit armé par le biais justement des éléments qui touchent aux vêtements. Donc il y a les chapeaux, il y a cette carte dans laquelle il y a les trajectoires de déplacement forcé des femmes. Donc l'idée, c'était que chaque femme brode leur trajectoire de déplacement forcé, et à la fin on avait une carte d'Ayacucho avec l'ensemble des trajectoires qui représentaient un tissu, qui est ce tissu collectif d'un FACEP. Et en haut, au plafond, on retrouve une immense écharpe qui a été tricotée par une soixantaine de membres d'un FACEP avec les noms de disparus. À la fin, justement, les cartes postales pour que le public puisse écrire des mots à un FACEP, restituer et faire, en disant, ce dialogue un peu intercontinental de l'expérience de cette visite. Et j'oubliais juste deux tablettes pour pouvoir écouter les chansons, en fait, et des QR pour pouvoir accéder au contenu.
Eh ben, merci pour cette visite guidée. Très, très efficace. Il nous reste juste le temps de parler du colloque. Donc, on disait que parmi les différentes formes du projet, il y a un colloque. Ça va être le 19 décembre.
Oui, c'est ça. C'est le 18 et le 19. Il y aura des activités le 16 et le 17 aussi à l'INALCO, au campus Condorcet. Et c'est un colloque qui, du coup, regroupe un comité d'organisation un peu plus vaste, mais dans lequel il y aura une femme d'un FACEP qui va venir justement pour pouvoir présenter le projet Warmikuna. Et je tiens quand même aussi à préciser que Warmikuna fait aussi partie d'un projet un peu plus large qui s'appelle Constellation pour les paix plurielles. En fait, vous pouvez aussi aller voir ce projet dans lequel vous retrouverez les cartes postales de Warmikuna. Et l'idée, c'est justement de faire participer au sein du colloque les personnes qui ont construit le projet, dont une membre d'un FACEP. Ça sera un colloque en plusieurs langues aussi, multilingue, et en hybride, pour que les gens qui se trouvent dans d'autres pays puissent aussi suivre.
Est-ce qu'on peut participer au colloque? Comment on s'inscrit? Et pareil pour les visites guidées de l'exposition, comment on y participe? Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Oui, alors le colloque, il n'y aura pas d'inscription. C'est vraiment, vous pouvez assister sans inscription. Il y aura juste une inscription pour le Zoom si jamais vous voulez assister en distanciel. Par contre, pour la visite guidée du 26 novembre, il y a une inscription que vous pouvez retrouver sur le site de la MSH Paris Nord, qui accueille cette exposition qui a été dans le commissariat, a été fait par un FACEP. Ma collègue Morgane Herrera, qui n'est pas là, mais qui est aussi la co-commissariat de l'exposition, et du coup moi aussi. Donc voilà. Sur le site de la MSH.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Tania Romero-Barrios d'avoir été avec nous pour nous parler du Pérou, du conflit armé, du post-conflit armé, des mémoires et du projet Warmikuna. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que Warmikuna, ça veut dire femme. C'est la femmes au pluriel. Voilà, c'est la fin de cette émission des Voix du Crépuscule. Nous revenons, alors, bah, comme le colloque de Warmikuna, ça sera le 18 décembre. Ah non, il y a d'abord une émission le 20 novembre avec Diana Chung des Voix du Crépuscule. C'est la suivante qui sera le 18 décembre. Et tout de suite, nous allons retrouver le monde zygomatique.